il faut remercier Yves Coppens pour cette chasse au trésor qui a découvert non seulement des diamants, mais aussi nos ancêtres. Je vous propose là de poser deux ou trois questions, trois ou quatre, sur la chaleur de la conférence, de nous arrêter ensuite 5 minutes et de reprendre les questions par la suite. Peut-être qu'à ce moment-là, Yves nous donnera quelques images.
Comme tu
La
veux.
première question que je voudrais poser, puisque c'est moi qui lance le questionnaire, c'est j'ai été absolument passionné par ce tableau, puisque ce tableau représente une sorte de coupure à 100 000 ans, où les cultures décollent par rapport aux transformations de l'homme. Et je voudrais demander à Yves, est-ce que au moment où on passe de la culture A, où on demeure à la culture A et où on passe à la culture B, il y a eu quelque événement qui peut expliquer le passage? Et est-ce que, deuxième question, au moment où l'homme se met à se stabiliser, à rester C, alors que les cultures changent, il y a eu aussi un événement. Est-ce qu'il y a des événements qui expliquent ces fractures?
Peut-être au niveau de l'ensemble de l'ancien monde, mais dans ce secteur particulier, pas du tout.
Pas d'événement.
Pas du tout. Et je voulais ajouter autre chose, mais je n'ai pas voulu charger le tableau. Si on faisait une troisième colonne avec, disons, le comportement. Alors le comportement, ça se mesure, ça se regarde d'après la répartition des restes au sol. Alors je veux dire que les restes au sol sont par exemple tout groupés n'importe comment. Dans un même secteur, il y a l'endroit où on dort, l'endroit où on découpe la viande, l'endroit où on taille le caillou, l'endroit où on mange. Tout est ensemble. Et puis, il y a un effort d'organisation du territoire, c'est-à-dire que l'endroit où on découpe est un petit peu séparé de l'endroit où on mange. Et de l'endroit où on dort, mais ça reste quand même dans la même aire. Et puis finalement, ça éclate au point que dans les fouilles, on n'a pas accès à tout. On trouve l'atelier, on ne trouve pas le reste. Ou bien on trouve l'endroit où on dort, on ne trouve pas le reste. Et en l'occurrence, il y a un retard encore
À
plus
de
grand,
nouveau.
oui, c'est ça, encore plus grand du comportement. C'est-à-dire que le comportement, il est A, puis ensuite il va être B. Et ensuite, c'est, et lui, il ne rattrape pas,
Presque
quoi.
pas la culture.
Il y a une espèce d'inertie
De disparition.
du comportement humain qui est toujours en décalage par rapport à la culture, laquelle est en décalage par rapport à la nature.
D'ailleurs, nous l'expérimentons ça régulièrement. Il peut
Oui,
y
oui.
avoir des décalages culturels type bicyclette, voiture, avion, et on continue à à agir de la même façon dans les relations humaines ou politiques. On peut comprendre ça, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, Jean-Louis?
Moi, je trouvais vraiment très intéressant votre exposé. Je me risquais une question. La question est suivante, c'est sur l'avenir. Finalement, au fond, l'évolution de l'homme, elle a été toujours, comme vous l'avez très bien expliqué, soumise à un choc extérieur qu'on a absorbé, on s'est adapté, on s'est transformé, etc. Est-ce que ce tableau, justement, ne donne pas une perspective qui serait une évolution endogène? Je veux dire, au fond, est-ce qu'on ne rentre pas dans un monde où ce qui va faire évoluer l'homme, c'est ses propres contradictions internes? Ce qui nous fera évoluer, c'est notre propre vie entre nous
Oui.
et plus la nature, quoi.
Oui. Oui. Il est certain que depuis un certain temps, la transformation du milieu ne nous touche guère. La transformation du milieu, il y a 3 millions d'années, a transformé la morphologie des hommes et aussi leur culture. Mais la transformation de l'environnement, il y a 50 000 ans, ou il y a 10 000 ans avec la fin de la dernière glaciation, a transformé leur économie, mais pas du tout leur être. Donc il y a un glissement de la nature vers la culture qui va se poursuivre dans la mesure où on continue à avoir la parade contre
Transformation.
les événements extérieurs. On a parlé hier des météorites qui risquaient de nous tomber sur le nez. Pour le moment, on n'en a pas trop le contrôle. Hein. On a parlé hier abondamment de la tectonique des plaques. Moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à les tenir en laisse, les plaques. On n'y est pas. J'ai failli le dire hier matin, mais je me suis dit, il ne faut pas aller trop vite tout de suite. Quoi. Ça sera un petit peu pour les conclusions de demain. Mais c'est vrai que cette matière pensante, on peut l'appeler peut-être comme ça, à laquelle nous sommes parvenus, change un certain nombre de données, bien que nous restions soumis en tant qu'êtres vivants à un certain nombre de lois du milieu. Moi, quand il fait froid, j'attrape des rhumes lorsque je ne me couvre pas, par exemple. C'est stupide, hein, vraiment.
Kaïmine.
Oui, je pense que l'émergence de la matière pensante est très importante. Et il y a deux hypothèses possibles. Est-ce que cette matière pensante, nous donnant les moyens de modifier l'environnement et donc de nous modifier nous-mêmes, ou bien c'est elle qui est la suite de l'homme? Si on regarde, je dirais, l'évolution des espèces, est-ce que l'après l'homme, c'est la matière pensante qui pourrait être la suite?
Écoutez, moi, je pense que ça fait partie aussi un peu des conclusions de demain. Mais personnellement, je crois, d'une part, que cette matière pensante, tant qu'elle a la parade, va se développer dans sa maîtrise, toutes ses maîtrises, sa maîtrise de notre corps. On est en train de décrypter notre génome. Quels que soient les risques que ça fait courir à l'humanité, la maîtrise de sa propre planète, on est loin d'y être, hein. On ne sait pas trop ce que c'est que ces courants de convection, on ne sait pas trop comment ça marche. On connaît mieux le système solaire comme ça extérieurement que l'intérieur de notre planète. Une certaine maîtrise de l'espace, en fait, tout ça, ça vient. Et on peut rêver de manière tout à fait extravagante, et croyez-moi, ça je sais bien faire. Je peux vous raconter des choses sur ce que sera l'avenir, mais je n'oserai pas en présence de mes témoins. Là. Ceci étant dit, il y a une chose que l'on ne voit pas assez, c'est qu'il n'est pas impossible du tout qu'au même titre que le mot est mauvais, hein, mais ça permet de comprendre la suite. Au même titre que les parents de Lucie, Australopithecus anamensis, n'a été qu'un intermédiaire, n'a été qu'un passage entre les gens d'avant, Ardipithecus ou primates supérieurs, et les gens d'après, Homo, il n'y a pas de raison que Homo sapiens ne soit pas un intermédiaire, un passage entre les gens d'avant, Homo erectus, et les gens d'après, Homo sur sapiens. Quelquefois on dit, mais quand est-ce qu'on va atteindre cette tolérance? Quand est-ce qu'on va arrêter d'agresser le voisin? Si c'est dans la tête d'Homo sapiens, peut-être que c'est... Enfin, il ne faut pas baisser les bras. Mais peut-être que c'est ainsi, et que la tolérance sera atteinte dans le sur-sapiens qui va nous suivre. Il n'y a pas de raison de penser que notre évolution, même si elle est un peu tassée par celle de notre savoir, va s'arrêter là. Quoi.
Et je répondrai même que la réunion d'aujourd'hui traite très précisément de ce problème. Car si d'après le tableau que Yves Coppens vient de dessiner, il y a une sorte d'inertie du comportement par rapport à la croissance de la culture, la croissance de la culture aujourd'hui s'appelle le progrès scientifique, et nous en traitons. Mmh. Et l'inertie du comportement, c'est nos inerties politiques. Mmh. Et tout à l'heure, nous disions, nous sommes en danger et nous n'avons pas un comportement adapté à ce type de danger, c'est précisément exprimé par le tableau que tu viens de décrire. Puisque dès le moment où la culture passe de CAD à E à F, et tout ce que tu veux, le comportement est toujours derrière.
Ah oui, toujours.
Et le colloque science-société, c'est le colloque culture-comportement. Mmh. Tu vois, et demande au comportement sociopolitique à s'adapter à la nouvelle donne de la culture. Parce qu'elle n'est pas adaptée à la nouvelle donne de la culture. Et ta question sur où la réponse d'Yves sur un sur-sapiens, c'est précisément un homme qui aurait un comportement adapté à l'ensemble de ses connaissances. Et pour le moment, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il faut espérer qu'il y aurait un comportement humain adapté à l'état actuel de nos prévisions, ce qui n'est pas le cas. Et ce pourquoi aujourd'hui nous tenons les assises de ce genre qui sont parmi les problèmes les plus importants de l'évolution de l'humanité demain. Pardon ? Ah non, la question c'est le comportement collectif, madame. C'est ça le problème. Quand je dis politique, ça veut dire le comportement collectif de la communauté. Mmh.
Les religions montrent bien qu'en considérant l'homme tel qu'il est aujourd'hui, peut-être stabilisé comme un achèvement, les religions polythéistes ou les religions monothéistes ne pensent pas à l'évolution du sur-sapiens. Mmh. L'homme tel qu'il est, l'image qu'il en a et qu'il se donne lui-même, est un achèvement. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est en contradiction. C'est peut-être à cause de la nature même de l'inquiétude humaine. Mais c'est quand même quelque chose qui nous met en question énormément. Or, quand on parle d'événements, justement, peut-être c'est parce qu'on va vers une société ou un achèvement total qui sera le manque d'événements bousculants. Peut-être que c'est ça le véritable progrès, c'est-à-dire d'arriver à une stabilisation de ce que représente l'humanité. Parce que nous sommes dans un monde, et la nature nous le prouve dans le passé, qui ne marche que par événements. Et c'est-à-dire, bon, en ce moment, quand même, je dis la religion considère l'homme comme un événement, mais elle attend le Messie, quand même. On mais attend l'événement bousculant.
Mais c'est ce que je voulais dire, il y a une énorme différence, je m'excuse de répondre à cette question, entre les religions polythéistes et les trois religions monothéistes. La différence est la suivante, c'est que les religions monothéistes ont inventé le temps irréversible. Ce n'est pas la science qui a inventé le temps irréversible, c'est les religions monothéistes. C'est les prophètes écrivains d'Israël qui ont inventé le temps irréversible. Dès lors que les religions inventent le temps irréversible, il y a une promesse. Ce qu'on appelle chez les juifs attente du salut, attente du Messie, ou chez les chrétiens attente du salut. Ce qui est vraiment la projection vers un nouvel homme. Excuse-moi, il y a tous les dogmes de toutes les religions monothéistes, justement, considèrent que l'état actuel de l'homme, c'est un état à laisser. C'est l'ancien homme et le nouvel homme. Et que si les sciences parlent d'un nouvel homme possible, les religions l'ont dit depuis déjà des millénaires, excuse-moi. C'est le contraire. Mais l'avènement du monothéisme, c'est la même chose que l'avènement scientifique.
Mais un homme qui, physiquement et dans sa capacité intellectuelle, mais qui finalement n'aura pas une évolution comparable, je pense à cela. Je pense qu'il est l'homme tel qu'on le voit, même tel qu'on se voit dedans nous-mêmes, tel qu'on peut se projeter comme on est.
Il vient de le dire. Il y a un homme CCC qui est stable et c'est la culture qui change. C'est ça l'avènement.
Est-ce qu'on est vraiment stable maintenant dans ce que le monde est
Ça, je ne peux pas le dire.
Il va y avoir une
évolution. C'est possible. Ça, c'est possible.
Mais ce sera événementiel. Le problème que l'on a avec
c'est plus long.
On est dans une période stable, qui nous paraît peut-être pas stable, mais le monde est un monde dans lequel un certain nombre de choses oscillent, que ce soit le climat, que ce soit la tectonique, etc. Il y a des choses qui oscillent, mais on est stable. Et ça, c'est ce que nous apprend la stratigraphie des grands océans. Et puis, il y a un moment quelconque où un des paramètres, et on ne sait pas toujours lequel, tire tout le reste. Exactement. Et on passe à un autre état stable, oscillant aussi, mais totalement stable pendant de longues durées. Et puis, il y a encore un événement qui arrive et qui déstabilise parce qu'il y a un des paramètres qui est les fonctions forçantes, qui a tiré quelque part. C'est quand même étonnant qu'on ne soit pas dans un monde qui est dans une évolution de continuum et qu'on soit toujours avec des événements et que tout est rythmé. Ce n'est pas artificiel, ça ne veut pas dire que quand on a des couches géologiques, c'est parce qu'on trouve dans une couche un ensemble puis dans une autre couche un ensemble par hasard. C'est réellement comme ça que se fait l'évolution. Ça pose un problème de philosophie étonnant, c'est que nous sommes, et peut-être c'est en nous, on attend l'événement. Et d'ailleurs, on adore l'événement. On a horreur, on s'ennuie s'il n'y a pas des événements. Et nous sommes un événement.
La notion d'événement est une notion scientifique, mais elle a été bien entendu précédée par des annonces d'événements dans les religions polythéistes. Il n'y a pas d'événement dans la religion polythéiste. Il y a des événements dans la religion monothéiste.
La du temps irréversible mène, d'après les religions, vers une fin des temps, un
spécialisme.
Oui, c'est vrai.
Charles voudrait en parler.
Oui, je trouve cette discussion tout à fait passionnante et au cœur du problème. Et ce que me suggère la colonne manquante du tableau d'Yves, qui je crois est vraiment, c'est presque un lapsus de ne pas l'avoir mis d'ailleurs. C'est que, et je vais tout à fait dans le sens de Michel, je pense que l'avènement annoncé par les religions monothéistes, c'est justement le rattrapage de la...
C'est des rattrapages.
Le rattrapage du comportement par rapport à ce retard, cette hystérésis de la culture et de l'évolution physique. Donc je crois qu'on est au cœur du problème, complètement.
Je crois que le tableau qu'a donné Yves est un tableau absolument fondamental, moi qui m'enthousiasme beaucoup. Parce que ces suites de décrochages peuvent être pensées à la fois comme une histoire, ce qu'a dit Yves, comme exactement ce que dit la tradition religieuse, dans certains cas, et ce dans quoi travaille précisément la recherche scientifique.
Avec un point d'inversion, en fait.
Pardon ?
Avec un point d'inversion.
Oui, c'est ça. À un moment donné, tout bascule.
Ça décale.
Et d'une certaine manière, est-ce qu'on peut dire, Yves, que l'homme est né là, l'homme moderne,
Je veux bien, je n'ai parlé, j'ai bien fait attention, j'ai parlé d'homme, mais c'est du genre homo, dont je suis habilité à parler. Mais que l'homme moderne, oui, apparaisse à 100 000 ans, un certain homme, oui.
C'est-à-dire avec le décalage, le glissement entre la nature et la culture. C'est ça.
Oui.
C'est-à-dire l'évolution naturelle, tout d'un coup, glisse vers l'évolution.
Les deux sont quand même là en permanence, mais je pense que la culture pousse de manière discrète, comme je le disais, mais elle n'en pousse pas moins, à l'insu presque de la nature. Puis à un moment donné, il y a équivalence, c'est le même plateau de la balance. Puis ensuite, la culture s'envole.
Ce point de décrochage est un point qui a été parlé partout.
Oui, il n'y a pas de trace. Les restes que l'on a ne sont pas marqués de manière excessive de traumatismes. Les traumatismes sur le squelette se voient, quand il y en a. Ils peuvent en effet être dus à des rapports un peu violents entre deux individus, mais il n'y a pas de... Enfin, on n'a peut-être pas beaucoup d'éléments non plus, mais il n'y a pas en tout cas de pourcentage aussi important qu'on puisse les noter comme une agressivité véritable, caractéristique.
Mais à propos de ça, tu as glissé un peu rapidement sur la disparition de Néandertal. Est-ce que tu as des idées personnelles sur la disparition de Néandertal?
Oui. Les idées vont te décevoir. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un problème. Je crois que...
Il s'est éteint
pour... Oui, je crois que quand on met deux populations en présence et qu'il y en a une qui est plus active que l'autre, qui est peut-être mieux équipée, qui a peut-être un effectif plus important. Il y avait peut-être bien plus de Cro-Magnon qu'il n'y avait de Néandertal. Que cette coexistence dure des milliers d'années, il y a petit à petit une prévalence qui se fait, et qui se fait peut-être de manière territoriale, mais simplement peut-être de manière comme ça, de coexistence.
Ils ne pouvaient pas se marier entre eux.
Je veux dire, normalement...
Ils n'étaient pas interfécaux. Hein.
Normalement, non, oui. Je veux dire par là, mais c'est un tout autre exemple, parce que là, il y a interfécondité, c'est pas du tout pareil, c'est la même espèce, mais même la même sous-espèce. Mais j'imagine que le territoire des SAM, autrement dit des Bushmen à l'heure actuelle, qui est très tranquille, mais quand même, hein, on les a un peu parqués, ces pauvres gens, dans un coin qui est peut-être un bout du leur, mais qui n'en était qu'un morceau. Imagine qu'on trouve une énergie nouvelle, que cette énergie... Elle se trouve à partir d'un certain nombre de roches, un certain nombre de minerais, que les sites soient précisément sur ce territoire-là. Les malheureux, ils subiraient une pression telle qu'ils n'auraient le choix que de mourir ou de s'hybrider ou de faire un exode vers les villes de l'Afrique méridionale. Et petit à petit, ils disparaîtraient, ces Bushmen, qui sont encore à l'heure actuelle, sur le plan anthropologique, assez purs. Alors, c'est un mauvais exemple, hein, je le reconnais, d'autant plus que...
Mais c'est une guerre, là, justement.
Oui. Mais on ne voit pas, justement, dans cette histoire, là, vous parliez de gens d'il y a bien longtemps, mais les Néandertals, dont les derniers ont 25 000 ans, peut-être, les Néandertals que l'on a découverts quand même en quantité relativement importante pour la paléontologie, quoi, on a une cinquantaine de restes, n'ont pas non plus de marques de traumatisme particulier.
Non, rien. Non. Exterminé.
Il y a une grotte du sud-ouest de la France, je ne sais plus laquelle, où il y a un niveau néandertal, et puis un niveau cro-magnon, et à nouveau un niveau néandertal et un nouveau cro-magnon. Comme si, mais pas mêlé, comme s'il y avait eu un recul, mais un recul, est-ce que c'est un véritable front, est-ce que c'est un recul d'une de saison de chasse ou de saison de séjour. Ces gens ont été un petit peu bousculés aussi par l'exercice. Quelquefois, l'île Nancy arrivait jusqu'en Belgique, avec 100 km de permafrost en frange. Ça fait une Sibérie pas loin de Paris. Hein. Et je sais ce que je dis. Il y a des préhistoriens qui pensent en effet que l'homme n'a pas pu quitter l'Afrique sans le feu. Les données sont contraires à ça quand même. Hein. Le feu maîtrisé, c'est 500 000 ans. L'homme hors d'Afrique, c'est 2 500 000 ans, donc il n'y a pas de rapport. Et même si certains sites un peu douteux sont pris en compte, ça fait des feux occasionnels qui peuvent avoir autour du million d'années ou un peu plus, mais il ne semble pas qu'il y ait de corrélation entre le mouvement qui n'est pas un mouvement continu, là aussi, hein, qui est une petite progression tout à fait discontinue, et la maîtrise du feu. Ceci dit, la maîtrise du feu a été, bien entendu, un pas considérable dans plein de choses, à la fois dans la cuisson des aliments dont on parle souvent, ça a d'ailleurs dû changer un peu la physiologie, mais aussi dans la conservation des aliments, dans la protection des gens, dans la lumière, des gens dans le discours philosophique. Hein. Au lieu de dormir, certains veillaient et enfin, posait les bases de ton œuvre future.
Quelle chance.
Une interrogation. Vous avez employé un mot tout à l'heure qui a fait tilt, c'est le mot de projet.
Oui.
Et à la lecture de ce tableau, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. Peut-on considérer que l'évolution de l'homme, telle que vous l'avez décrite dans ce tableau, est donc une succession de projets ayant permis à l'homme d'évoluer, ou alors, à travers la lecture des diverses sciences que vous avez évoquées, peut-on penser que ce projet est en réalité beaucoup plus lointain, beaucoup plus complexe, et qu'en fait, l'humanité aurait un projet global. Chacune de ces évolutions, chacune de ces stratifications, n'étant finalement qu'une étape.
Oui.
Alors, ce qui serait intéressant, moi je ne sais pas, mais ce qui serait intéressant, vous, à travers la lecture donc, que vous avez de votre expérience, avez-vous pu déterminer l'existence, en quelque sorte, d'une ligne conductrice qui mènerait l'homme vers une évolution, vers un achèvement, en quelque sorte, définitif? Ou alors, au contraire, pensez-vous, à ce jour, que les découvertes que vous avez pu réaliser établissent l'homme comme étant un individu soumis à son environnement, passant des paliers successifs sans savoir très bien finalement où il va,
oui.
Un petit peu, je dirais, tributaire eh bien, de son environnement, qu'il soit écologique, oui, social, etc.
C'est tout ça à la fois. Il est tributaire d'abord et il l'est de moins en moins. Je ne vois pas d'achèvement, mais je vois un projet qui s'allonge considérablement. Lorsque l'exemple que j'ai donné, que j'ai attribué à Pierre Lénard, en fait, il n'en a pas parlé hier, mais l'exemple de la leçon des astrophysiciens qui nous disent le Soleil est une étoile, les étoiles ont un certain temps de vie. Évidemment, le jour où notre étoile s'éteint, il fera pas long feu, c'est bien de le dire, de notre Terre. Donc il faut trouver à terme, et le terme c'est 5 milliards d'années, une solution. Alors c'est presque une plaisanterie. Enfin, ça veut dire tout de même qu'aujourd'hui, on a une perspective du temps d'avant et du temps d'après, telle que ce projet, qui n'est pas un achèvement, mais parce que je n'y crois pas, je ne crois pas qu'on soit bloqué par ça, mais notre projet atteint au moins 5 milliards d'années. Alors quand on interroge certains astrophysiciens, ils vont plus loin d'ailleurs, ils disent que la manière dont fonctionne l'univers les fait penser qu'ils peuvent avoir une vision en perspective de plusieurs dizaines de milliards d'années. Alors moi, je n'en sais rien. Hein, projets successifs de plus en plus longs et qui ne font que s'allonger, et on est au sein d'un de ces grands projets, c'est de s'en sortir. Mais une fin là-dedans, non. Moi, je ne vois pas de fin là-dedans.
Moi, je voudrais répondre un peu autrement, s'il te plaît, Yves, à la réponse qui me paraît intéressante. C'est que l'effet d'éloignement que propose Yves dans sa conférence fait un effet que le sujet de son étude, c'est Homo, c'est-à-dire une espèce et à la rigueur un genre. Mm. Et que dans votre question, vous posez comme sujet l'homme. Bon. Et pour quelqu'un qui serait aujourd'hui, qui poserait cette question, il ne peut pas parler de l'homme. Parce que cet homme, qui est-il? Ce n'est pas l'homme comme espèce ou l'homme comme genre, parce que nous sommes tous des individus. Et par conséquent, c'est l'homme politique dont vous parlez, c'est le savant dont vous parlez, c'est l'homme cultivé dont vous parlez, c'est l'homme de la rue, c'est le bushman, c'est l'américain, c'est le néo-zélandais, vous voyez. Ça se multiplie à l'individu. Et notre préoccupation aujourd'hui, précisément, lorsque nous sommes à plusieurs, instruits des projets, puisque Pierre Lénard a un projet sur des milliards d'années, lui a un projet sur des millions d'années, le géophysicien n'a pas... Il y a des décalages entre les gens pour ce qui concerne le projet. Et justement, la question que nous posons dans Sciences et Sociétés, c'est est-ce que précisément l'homme, dont vous parlez, peut avoir le même projet que celui que les savants proposent, ou que celui, etc. Et c'est-à-dire que ces inégalités ou ces sortes de diversités entre les projets soient à un moment intégrées dans une communauté citoyenne, si vous voulez, ou humaine à la rigueur. Donc le problème est un peu différent dès qu'on le pose en l'an 2000, au mois d'avril. Vous voyez, c'est plus le même homme. Lui, il peut parler de l'homme, mais... Nous, c'est très difficile. Et c'est précisément pour le trouver, cet homme-là, que nous sommes réunis. C'est en société, ça veut dire ça.
Oui, mais est-ce que, tout simplement, ce qu'on peut ressortir de cette discussion n'est pas de constater que ce qui fait l'homme, c'est d'avoir un projet.
Certes.
Oui. Quel que soit le projet.
Oui, ça peut.
Personne, je crois, peut contester une chose pareille.
Ça peut être la définition de la conscience.
Il ne me semble pas que le chat, que le léopard ou que le lys aient des projets.
Okay. Peut-être que moi, je prendrais un petit peu de distance par rapport à ça, parce que quand je trouve que des certitudes aussi sûres d'un coup comme ça, c'est énorme. C'est...
Moi aussi, je...
Parce que, par exemple, je travaille en intelligence artificielle, ben bon, c'était très bien, mais en fait, quand on parle d'intelligence, ben, on n'y a jamais accès à l'intelligence, on a accès uniquement aux effets de l'intelligence. Nous, on a accès à notre propre conscience. On n'a jamais accès à la conscience des animaux, ni des végétaux, peut-être des minéraux, j'en sais rien. Donc, je trouve qu'il faut qu'on fasse un peu attention par rapport à notre regard du monde. Donc, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que quand on parle de projet, et ça, c'est peut-être ma déviation, puisque maintenant, je suis beaucoup plus dans la partie, je dirais, technologique. Eh bien, quand on essaie de faire un projet, on a en général un but. Sinon, il ne faut pas utiliser le terme de projet, à mon avis. Il faut plutôt utiliser le terme d'aventure ou oui. Choses-là. Donc, je ne sais pas si l'homme a un projet, parce que dans ce cas-là, le problème serait réglé philosophiquement depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il connaîtrait le sens de sa vie. Et je pense que c'est une question qui est ouverte.
Oui, la première partie de la question, tout à fait juste. Hein. Il est vrai que l'accès à cette pensée de l'animal nous échappe bien. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour comprendre ce que par exemple, réalisent les chimpanzés. On voit bien que dans leurs applications, ils n'arrivent pas à ce que nous réalisons nous-mêmes, loin de là. Mais dans certaines de leurs réactions, on les constate, mais on les constate bêtement avec forcément notre éclairage à nous, et on ne peut pas en fabriquer d'autres. Peut-être qu'on comprendra peut-être un petit peu mieux. Mais première partie, d'accord. Les projets dont j'ai parlé sont de vrais projets. De vrais projets. Quand on a un caillou et qu'on se dit je vais m'en servir demain, il est là le projet. Il est concret. Quand on a le biface et qu'on dit on va l'utiliser pendant 2 mois, il est là. Quand on fait un dessin et on dit tous nos petits passeront devant, parce que les traces de pas dans les grottes sont souvent des traces de pas de jeunes, donc ça ressemble à une initiation, ça va servir à mon fils et à mon petit-fils parce que j'ai mis du sang de bison dans ma peinture, c'est un vrai projet. Et quand on se dit qu'il faut tirer l'humanité de là ou la Terre de là parce que dans 5 milliards d'années elle est foutue, c'est un sacré projet. Non, je parle de choses concrètes, hein. Attention camarades. D'accord, oui. Non, l'humanité n'a pas de projet.
Je voudrais ajouter à ce que vient de dire Yves, que tout à l'heure, il a dit quelque chose de très passionnant sur les jetons.
Ah oui.
Les jetons dans les boules, des boules bien, cassées, etc. Et à propos de l'écriture, il a utilisé une expression dont tous les anthropologues se servent depuis déjà des dizaines d'années, la pensée symbolique. Et je voudrais simplement dire que le mot symbole vient d'un mot grec, symbolē, qui veut dire prendre un jeton, ouais. Casser le jeton, partager le jeton entre plusieurs hommes, et lorsque plusieurs années, plusieurs jours après, ils se rencontrent sans se reconnaître, ils associent les deux parties du symbolē. Et lorsque les détails s'enchassent l'un dans l'autre, sum, ça veut dire mettre ensemble, et ballo, ça veut dire porter des choses pour les associer, pour faire un seul jeton. Et le mot la pensée symbolique, le mot symbole dit exactement ce que Yves Coppens a dit des objets. Voilà. C'est exactement la même.
C'est-à-dire, ça fait passer une bonne journée.
Les Grecs ont inventé un mot qui s'adapte parfaitement à la théorie de... Les Grecs appelaient ça la tessère, c'est-à-dire les Latins. Lorsque vous receviez quelqu'un à dîner ou à coucher chez vous, pour respecter la loi d'hospitalité, lorsque votre hôte s'en allait, on cassait la tessère, on cassait le symbole, et plusieurs années après, même les enfants pouvaient se représenter par l'association de ces morceaux, c'est ça la constitution de la pensée symbolique.
C'est joli d'ailleurs.
Oui, c'est très joli.